à bâton rompu. À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Benoît de Montetti, bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureux de vous recevoir. Vous êtes bien connu dans cette maison à Radio Présence. Et vous avez accepté de venir aujourd'hui nous parler un petit peu de vos différentes expériences. Je vais commencer par vous présenter rapidement à nos auditeurs. Vous avez 61 ans. Vous avez 6 enfants, 6 filles.
Exactement.
Bel exploit. Mm-hmm. 6 filles et vous êtes rattaché à la paroisse de Balmain. Vos fonctions actuelles depuis 2019, c'est d'être responsable de la coordination entre le siège d'Airbus et un certain nombre de filiales, pas toutes les filiales parce qu'il y en a énormément, mais un grand nombre de filiales. Donc c'est un métier extrêmement prenant, un métier de cadre dirigeant chez Airbus. Au préalable, vous avez eu une carrière militaire, vous aviez fait l'école militaire de l'air et vous avez ensuite été pilote dans l'armée. Donc, notamment dans des opérations...
Pilote de transport sur Transal, en effet.
Voilà, donc dans des opérations militaires menées par la France, j'imagine, en Afrique, par exemple.
Absolument.
Donc, c'est une expérience riche. Ensuite, vous êtes rentré chez Airbus. Là, vous avez été à l'international, comme beaucoup de cadres d'Airbus. Vous avez passé 5 ans en Thaïlande, où vous avez monté une filiale.
Exactement.
C'est ça.
Donc,
quel cadre ?
Alors, dans le cadre de déploiement d'Airbus et de montage, en fait, de filiales dans un pays dans lequel il n'y avait pas de structure d'Airbus et un pays clé en Thaïlande, ouais, avec bien évidemment une clientèle très, très importante pour le groupe Airbus.
Bien, autant dire que vous êtes quelqu'un qui a une vision internationale, mais évidemment, dans le contexte géopolitique actuel, on pourrait éventuellement débattre de ça, mais ce n'est pas tellement pour ça que je vous ai demandé et que vous avez accepté de venir. Je voudrais d'abord qu'on vienne sur un sujet qui est celui de l'éducation et de la vie au quotidien. Vous avez 6 enfants. Vous êtes un couple qui, sur le plan de sa foi catholique, est engagé. Et donc, c'est quoi pour vous d'être catholique aujourd'hui, avec un métier extrêmement prenant, avec en même temps 6 enfants à la maison à éduquer? C'est pas toujours simple. Comment vous vous y prenez?
Alors déjà c'est une approche de couple. Nous sommes mariés avec Florence depuis bientôt 40 ans. Donc cet accompagnement est un accompagnement qui nécessite en fait un investissement à la fois du père et de la mère. Hein, donc ensemble, c'est vrai que nous vivons notre foi à deux, ensemble, et nous transmettons notre foi, même si nous n'avons pas d'objectif de résultat, hein, c'est toujours ce que l'on dit, hein, mais par contre de transmettre et de laisser les témoins que vont rencontrer nos enfants pour les accompagner dans leur chemin de foi. Donc c'est vrai qu'on les a accompagnés, emmenés à la messe régulièrement, tous les dimanches, jusqu'à un certain moment. Et l'âge de l'adolescence est en effet une période d'interrogation, une période où des orientations sont prises par nos enfants. Donc certains ont continué effectivement à prendre ce chemin, et d'autres ont préféré prendre un petit peu de distance par rapport à l'Église. C'est, je crois, le propre d'un certain nombre de nos familles catholiques qui transmettent et ensuite laissent le chemin se faire pour nos enfants.
Ça, je crois qu'on a tous cette expérience, on peut tous en attester. Moi, ce que je me suis dit avec les miens, en tout cas, c'est que j'avais quand même semé des graines. Et je constate, puisque je suis un peu plus âgé que vous, que à un moment, la graine porte des fruits quand même.
Donc... Absolument, absolument. Mais pour qu'elle se révèle, il faut souvent des témoins extérieurs à la famille, ou des événements qui vont faire en sorte que cette graine germe. Et c'est pour ça que c'est important aussi de témoigner et de mettre en contact en fait nos enfants avec des témoins différents, parce que nos enfants sont différents et donc ils ont besoin d'avoir des approches différentes avec les témoins qu'ils vont rencontrer.
Et votre épouse, donc, suit. Elle a un métier elle-même. 6 enfants, c'est déjà un métier.
C'est un métier à temps plein. Oui. C'est un métier à temps plein. Donc, pendant une certaine période de sa vie, forcément, elle s'est occupée des enfants. Puis ensuite, elle a fait le choix, en tant qu'ancienne infirmière, d'être formée conseillère conjugale et familiale. Donc, elle s'est formée ici à Toulouse et est devenue conseillère conjugale et familiale, justement, pour accompagner les couples en difficulté ou pour aider en fait un des deux membres du couple.
Alors ça en vient au sujet que je voudrais qu'on aborde en priorité, c'est celui de votre engagement justement avec votre couple, avec votre épouse, dans une association qui est assez peu connue mais qui s'appelle Cap Mariage. Alors, vous allez nous expliquer un peu de quoi il s'agit. Moi, personnellement, je ne savais pas trop ce que c'était. Je connais le cadre des préparations au mariage qu'on a dans la plupart de nos paroisses. Qu'est-ce que ça a de différent? C'est quoi Cap Mariage?
Alors, en fait, si on refait le parcours un petit peu de notre histoire et de notre engagement sur la préparation au mariage, nous avons commencé la préparation au mariage par faire de la préparation au mariage religieuse, comme vous le précisez. Et donc, dans le cadre du CPM, on s'est rendu compte qu'en fait, au bout d'un certain temps, c'était il y a une vingtaine d'années, un peu plus d'une vingtaine d'années, on s'est rendu compte qu'un certain nombre de couples ne souhaitaient pas se marier religieusement et cependant pouvaient bénéficier d'une préparation au mariage. Et donc cette association Cap Mariage, qui a un peu plus de 20 ans d'âge, en fait, s'est focalisée justement sur la préparation au mariage des couples, préparation au mariage civil, des couples qui viennent devant Monsieur le maire. Alors en quoi ça consiste? En fait, c'est bien un des engagements en général que les couples prennent les yeux fermés sans savoir ce qu'ils signent. Si vous avez participé à un mariage dans une salle de mairie, devant Monsieur le maire, très souvent, les mariés, bien évidemment, ce jour-là, sont émus, pleins d'émotions, pleins de joie, pleins de gaieté, etc., et n'écoutent absolument pas ce que Monsieur le maire va raconter. Mmh. Et pourtant, il lit les articles du code civil avec les engagements associés. Et en fait, notre objectif, c'est justement de faire réfléchir les couples avant le mariage, pour qu'ils écoutent ces articles du Code civil, qu'ils les décodent ou qu'ils les comprennent un peu mieux, de façon à ce que lorsqu'ils vont les entendre le jour de leur mariage, ils savent exactement ce qu'il y a derrière et ce que cela veut dire en termes d'engagement.
C'est une préparation civile, complètement civile.
Absolument.
Il n'y a pas l'aspect religieux.
Absolument. Absolument. C'est assez complémentaire avec la préparation au mariage religieuse, mais c'est vrai que ce que l'on conseille en général pour des couples qui vont se marier religieusement et qui vont suivre leur préparation au mariage, de se focaliser plutôt sur la préparation au mariage religieuse. Mais on a un certain nombre de couples qui souhaitent et qui ont souhaité faire les deux, c'est-à-dire faire la préparation au mariage civil et faire aussi la préparation au mariage religieux.
Et alors, par exemple, rappeler les textes de loi, évidemment, c'est important, mais j'imagine que vous, vu votre parcours, vu votre engagement, vous allez plus loin que ça, vous parlez aussi de la durée, j'imagine.
Exactement. Alors, donc, en fait, ce sont des réunions qui se passent en deux temps. Donc, un premier temps où on va parler effectivement des articles du Code civil, c'est une réunion qui dure une heure et demie à peu près, donc un échange, c'est un temps d'échange. En général, on prend les couples en groupe, donc groupe de 4 ou 5 couples, de façon à pouvoir aussi avoir des échanges à l'intérieur de ce groupe. Puis ensuite, on leur propose une deuxième réunion, qui est une réunion qui est plus en comité restreint, puisqu'en fait, on prend un seul couple avec le couple animateur. Et là, on va rentrer dans comment construire un couple durable. En fait, on va leur donner une caisse à outils. Une caisse à outils dans laquelle ils vont retrouver un certain nombre d'outils. Donc on va leur dire, voilà, ces outils existent. Après, vous êtes bien évidemment tout à fait libre de prendre ces outils qui vous permettront justement de construire votre couple dans la durée. Certains couples, parce que ce n'est pas une garantie bien évidemment, donc certains couples vont décider de le prendre et vont les utiliser, d'autres ne les utiliseront pas et auront d'autres options. Mais notre objectif à nous, c'est vraiment de dire, voilà, vous avez ici une caisse à outils avec un certain nombre d'outils, regardez comment les utiliser, regardez et grâce à YouTube et à tout ce qu'on peut trouver sur Internet, évidemment, on a aussi énormément de matière et énormément de matériel que l'on peut utiliser. Donc en fait, on les oriente vers ce genre de choses qui leur permettent d'une part de réfléchir ensemble. Parce que souvent, on leur demande entre la première et la deuxième réunion, c'est pas souvent, c'est systématiquement, on leur donne un questionnaire. Et on leur dit, vous prenez une soirée ensemble, vous revoyez toutes les questions qu'il y a, il y a sûrement des sujets que vous avez déjà abordés, puis il y en a d'autres, peut-être vous ne les avez pas abordés parce que vous l'avez oublié, ou vous ne l'avez pas abordé parce que vous ne vouliez peut-être pas l'aborder. Donc en fait, on vous demande de les aborder ensemble, de façon à bien vous connaître l'un et l'autre. Puisque vous savez bien que dans un couple, il faut connaître le conjoint, mais il faut aussi se connaître soi. Et que parfois, on se découvre, quand on prend le questionnaire, on découvre des choses que l'on n'avait quelquefois cachées dans un quelque part. Donc c'est cette approche-là qui fait qu'on cherche à ce que les couples se connaissent mieux, utilisent des outils qui leur permettront ensuite de construire ce couple dans la durée et de pouvoir se dire après un certain temps, eh bien voilà, on a construit quelque chose et c'est quelque chose qui tient. On leur donne, par exemple, des choses qui sont déjà données et partagées ici sur Radio Présence lorsque Marie Binet nous donne quelques conseils conseils conjugal, communication, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour le couple, de façon à pouvoir à chaque fois continuer à construire. Hein, donc c'est vraiment notre objectif.
Et bien, parce qu'on est quand même dans une période où le nombre de divorces est quand même hallucinant
Absolument.
Dans les 10 premières années et même dans les 7 premières années. Donc vous sentez, vous, qu'il y a ce besoin chez des jeunes qui veulent s'engager, se marier donc, civilement, de construire quelque chose de durable, vous sentez ça?
Absolument, absolument. Alors, c'est vrai que la démarche que nous avons, c'est une démarche les couples qui viennent nous voir sont volontaires. Donc comme ils sont volontaires, ils ont une démarche véritablement de construction. Donc ils veulent, et on n'en a pas rencontré encore jusqu'à présent, dans tous les couples que l'on a accompagnés, on n'a pas encore rencontré de couples qui nous disent « Non, mais nous on vient vous voir et on veut se marier parce qu'on s'aime aujourd'hui, mais si on ne s'aime plus, on se sépare, on divorce et on n'en parle plus. »
Vous n'avez jamais été face à ça. Non, ce n'est pas le cas.
Alors,
existe sûrement.
Bien sûr que ça existe.
Ils ne viennent pas vous voir.
Exactement, exactement. Ouais. Du coup, la volonté, parce que quand on les aborde, et en général on les aborde à l'occasion du salon du mariage, hein, on a deux axes pour rencontrer ces couples-là, c'est soit au salon du mariage, soit par l'intermédiaire des mairies qui nous envoient ces couples. Donc c'est la façon avec laquelle on les attire. Bien évidemment,
les mairies proposent le service, c'est pas obligatoire évidemment.
Absolument, ça n'est pas obligatoire. Alors, on a des accords avec certaines mairies, la mairie de Balma en particulier, avec lesquelles on a un accord. Et donc, systématiquement, lorsqu'un couple vient demander son dossier de mariage et dire « je voudrais me marier à Balma », systématiquement, on donne le dossier. Et dans le dossier, enfin, donc les agents administratifs de la mairie donnent le dossier. Et dans le dossier, ils voient apparaître sur la couverture la possibilité de se préparer pour le mariage civil. Bon, aujourd'hui, c'est une information.
Donc, c'est une démarche volontariste.
Exactement.
De la part des jeunes.
Exactement. Ce qui explique que les couples que l'on a rencontrés sont des couples qui sont en général
en
volontaires
recherche,
pour construire quelque chose.
Et est-ce que vous avez une idée de la proportion de couples par rapport, mettons, sur une mairie comme Balma, c'est quoi? C'est 20%, 50% des couples qui suivent ce genre de choses?
Alors, actuellement, nous sommes une petite équipe, hein, nous ne sommes que 5 animateurs, donc ça reste assez limité. Et en fait, sur Balma, par exemple, on est à 4 à 5%, en fait, hein, des couples de Balma qui viennent nous voir. En revanche, on a des couples de Toulouse, on a des couples de la région toulousaine, on a même des couples qui viennent de l'Occitanie, parce qu'en fait, on les rencontre à l'occasion du salon du mariage. Oui. Et vous savez bien que le salon du mariage attire des jeunes, des moins jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, mais des futurs mariés qui viennent de la région, voire plus loin. Et donc à cette occasion-là, on leur présente le projet et certains disent on est prêt à partir sur cette formation ou cet accompagnement.
Il y a beaucoup de communes où on peut trouver cette association Cap Mariage, parce que c'est une association nationale en fait.
Absolument.
Il y a beaucoup de villes de France où ça existe.
Alors c'est aujourd'hui très après région parisienne, donc en fait, il y a deux zones à l'extérieur de la région parisienne dans lesquelles on trouve ce type d'association, une du côté de Nantes et une à Toulouse. Hein, donc après, à Lyon, c'est une antenne, mais qui aussi se développe. Donc il y a une volonté de développement, effectivement, de cette association, de cette fédération, de façon à pouvoir essayer de toucher le plus de couples possible, parce que nous pensons que c'est une proposition qui fait sens pour les couples d'aujourd'hui, mais aussi pour notre société. Et même les politiques, puisqu'il y a un certain nombre de décrets, et en particulier un décret qui a été signé en 2005, je crois, si je me souviens bien, qui demande justement à ce que les mairies préparent les couples justement à ce mariage civil. Donc il y a une volonté aussi politique. La difficulté, bien évidemment, c'est la capacité des mairies de oui. pouvoir organiser cela. C'est là où Cap Mariage vient aider, accompagner les mairies qui souhaitent effectivement ne pas le faire eux-mêmes et demandent en fait à une association de le faire à leur place.
Et dans cette association, donc vous, comment vous l'avez connue, cette association?
Alors on l'a connue parce qu'en fait on a réagi dans notre histoire, on a réagi justement sur Famille Chrétienne, dans un article de Famille Chrétienne, on a réagi en disant c'est bien de se focaliser sur les couples qui vont se marier religieusement, catholiques, etc., mais comment on fait pour les autres? Et là, Antoine Daudifray, à Paris, nous a envoyé un petit message en disant « Sachez qu'il existe cette association Cap Mariage, et c'est comme ça que nous sommes rentrés en fait dans l'association et que nous nous sommes engagés sur ce projet. »
Donc là, vous côtoyez d'autres couples, évidemment, qui sont dans le même cas que vous.
Absolument.
Tout type de couple ou principalement des catholiques ou des chrétiens?
Alors aujourd'hui, parmi les couples animateurs, si on parle des couples animateurs, effectivement, c'est plutôt des couples catholiques, engagés, etc. Et nous sommes en recherche, en effet, de couples un peu différents, je veux dire, qui soient ouverts. En fait, l'objectif, c'est d'avoir une approche assez large. Par exemple, un couple recomposé, donc des divorcés remariés, exactement. Donc essayer d'avoir une représentation dans la partie animation pour pouvoir proposer aux jeunes qui se marient, enfin aux futurs mariés plutôt, de pouvoir leur proposer justement un panel d'animateurs différents et de montrer que même un couple recomposé de cultures différentes, etc., a envie toujours de construire un couple durable.
Et de religions différentes?
Alors, religions différentes aujourd'hui, c'est pas le cas, mais ça serait l'objectif, effectivement, puisqu'en fait, c'est une association totalement apolitique et aconfessionnelle.
Oui, bien sûr. Bien sûr, vous n'êtes pas là pour faire du prosélytisme d'une façon ou d'une autre.
Absolument, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'on a toujours une interrogation qui nous est donnée par ceux qui se préparent au mariage en disant « Mais pourquoi vous faites ça ? »
Ouais.
Qu'est-ce qui fait que vous êtes engagé là-dedans ?
Je vous pose la question, d'ailleurs.
Voilà, mais c'est toujours intéressant de dire on est engagé là-dedans parce que on croit dans le couple, parce que pour nous le couple c'est le fondement
de notre société.
C'est aussi l'amour que l'on se porte entre nous est aussi fort
et transmettre aux enfants.
Transmettre aux enfants, transmettre au-delà même des enfants, puisqu'en fait, la fécondité du couple va au-delà, bien évidemment, des enfants. Donc, en fait, on leur explique que c'est cet engagement de couple, il a bien évidemment deux orientations. Une orientation qui est de notre foi, mais aussi une deuxième orientation qui est de dire on a besoin de construire cela parce que c'est notre futur et c'est notre vie, en fait.
Quand j'étais plus jeune, moi... Avant de me marier, je ne me suis pas marié très jeune, mais évidemment, je m'interrogeais, comme beaucoup de jeunes gens. Et j'avais lu un ouvrage, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le lire, de Jacques de Bourbon-Bussée, qui s'appelle toujours l'ouvrage « L'amour durable ». Et il expliquait comment, lui aussi, après une vie de couple qui avait duré 50 ans, au fond, il faisait le bilan et il disait « Qu'est-ce qui fait qu'avec ma femme, on a réussi à construire un couple durable et à préserver les valeurs qu'on avait initialement affichées et recherchées ?» Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de lire cet ouvrage.
Alors, pas cet ouvrage-là. Mais nous, enfin, notre référence hein, sur la construction du couple, c'est Gary Chapman, c'est Les langages de l'amour, qui est un livre très précis, très concret, que d'ailleurs on conseille en général aux couples que l'on accompagne, et qui explique comment, en fait, à l'intérieur du couple, se parler au-delà des mots. Donc il y a 5 langages de l'amour, et ce qui est très intéressant dans cette approche, c'est une approche de je dois d'abord connaître mon langage de l'amour, quel est celui qui me permet de remplir mon réservoir affectif, et il faut que je connaisse aussi celui de l'autre, parce que j'ai tendance en fait à essayer de remplir le réservoir affectif de l'autre avec mon langage à moi. Et très souvent, on fait fausse route, et on ne comprend pas, parce qu'on se dit, mais pourtant j'ai fait un effort immense. Et en fait, l'autre n'a pas reçu, bien évidemment, cet effort.
C'est très intéressant. Alors, j'en viens à une question qui est un peu le prolongement de ça. C'est vrai que on a le sentiment, à tort ou à raison, mais c'est toujours difficile de prévoir l'avenir, mais on a le sentiment qu'on bascule un peu dans une ère nouvelle que certains qualifient de transhumanisme et qui se matérialise à travers l'allongement de la durée de vie, et de la durée de vie en bonne forme. Aujourd'hui, il n'est pas complètement fou de penser que beaucoup de gens de la génération qui naissent maintenant atteindront facilement leur 100e anniversaire, voire plus, en étant en forme. C'est un défi aussi pour les couples. Deuxième chose, on est dans une vision du genre où les gens ont le sentiment fou, un peu contre la science et la biologie en particulier, qu'ils peuvent choisir leur genre, leur sexe, qu'ils peuvent choisir d'être une femme ou un garçon. Or, c'est ce qu'on est en train de vivre, cette théorie du genre qui m'effraie personnellement, mais enfin qui est là et que nos jeunes vont entendre. Ont le sentiment aussi que ben, finalement, qu'ils soient femmes ou garçons, qu'ils aient un utérus ou qu'ils n'en aient pas, ils pourront quand même avoir des enfants, donc que des couples homosexuels et particulièrement des couples d'hommes pourront aussi avoir des enfants sans aucun problème. Donc tout ça bouscule beaucoup le couple. Et est-ce que dans votre vision du couple durable, vous intégrez ces questions?
Alors, la notion, bien évidemment, le défi de la durée, bien évidemment, est clé. C'est-à-dire que savoir que l'on va rester ensemble pendant 50 ans, 60 ans, est quelque chose de fort.
Un vrai challenge.
C'est un vrai challenge. Mais en fait, ce qu'on explique justement aux jeunes, alors, c'est déjà une des raisons pour lesquelles ils viennent pour un mariage plutôt tardivement par rapport à notre génération. Déjà, il y a un décalage. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui se marient à 20, 25 ans sont beaucoup plus rares aujourd'hui que ça n'était le cas précédemment. Je crois que, si je me souviens bien, les moyennes d'âge actuellement sont aux alentours de 32, 33 ans hein, pour le mariage, en moyenne d'âge. Hein. Donc on est déjà dans cette approche-là. Et ensuite, ce qu'on leur explique, c'est que effectivement, si on utilise des outils et qu'on construit quelque chose, on découvre toujours... Et même après 50 ans, même après 50 ans de vie commune, on découvre toujours quelque chose chez l'autre et on construit ensemble. Alors après, sur le sujet, bien évidemment, de la théorie du genre, là, c'est un petit peu plus compliqué. Nous préparons des couples homosexuels au mariage civil. Alors, nous n'abordons pas le sujet des enfants, puisqu'en fait, dans le code civil, ce que l'on dit, c'est que si un enfant arrive, on l'accueille et on en est responsable. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation, entre guillemets, d'avoir d'enfants dans le cadre, comme il peut y avoir dans le cadre du mariage religieux.
Et il n'y a pas le droit, heureusement, dans le code civil, il n'y a pas le droit à avoir un enfant.
Exactement.
Ce n'est pas un droit.
Exactement.
C'est un don du ciel, Dieu soit loué.
Exactement. C'est écrit comme tel. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une responsabilité. Le code civil fait vraiment focalise sur la partie responsabilité. En tant que parent, vous êtes responsable de vos enfants, de votre enfant ou de vos enfants. Et ça, c'est un point clé.
Ouais. Hein? Bien, Benoît de Montetti, je crois que le temps qui nous est imparti, malheureusement, passe trop vite. Il va falloir conclure. Juste une dernière question en deux mots. Qu'est-ce que vous conseillez à vos propres enfants face à cette responsabilité de la construction d'un couple durable? Qu'est-ce que vous dites à vos filles?
Alors, si je le dis en deux mots, préparez-vous. Soyez prêts. le mariage est le début d'une histoire. Et donc, comme c'est le début d'une histoire, il faut bien l'avoir prévu, discuté, etc. Et donc, ce qu'on leur dit à chacune, et c'est ce que l'on a dit à chacune de nos filles qui se sont mariées, c'est prenez le temps de vous préparer pour bien vous connaître et bien construire ensemble ce que vous voulez construire tous les deux.
Avoir un projet de vie.
Exactement.
Bon. Eh bien, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Benoît de Montetti, pour tout cet éclairage sur votre expérience. Et peut-être à bientôt.
Merci beaucoup.
Au revoir.